VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, donc, à ce micro. Dans un instant, l'Amérique et vous, une rediffusion de l'émission présentée le vendredi. Mais d'abord, l'actualité. Au moins 3 personnes ont été tuées par balles ou égorgées et plus de 100 maisons incendiées dimanche à Bangui au cours d'affrontements qui se poursuivent depuis plusieurs jours entre des musulmans et des miliciens anti-Balaka. C'est du moins ce que rapporte l'AFP qui cite une source hospitalière. Les violences ont baissé d'un cran ce lundi, mais des tirs sporadiques étaient entendus autour du PK5, bastion des musulmans de la capitale. Au Burundi, alors que la violence s'intensifie dans Bujumbura et à l'intérieur du pays avec 2 corps découverts ce lundi dans 2 quartiers du nord et du sud de la capitale, le président Pierre Nkurunziza a donné un dernier ultimatum de 5 jours à ceux qui possèdent encore des armes pour les rendre. Autrement, la police et l'armée passeront à l'action contre les insurgés. Et puis, suspension des actions de désobéissance civile au Congo, Brazzaville. Les 2 principales coalitions de l'opposition avaient appelé à des journées villes mortes tous les lundis, jeudi et vendredi pour protester contre les résultats du référendum du 25 octobre permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Mais aujourd'hui, dans un souci d'apaisement et en vue de permettre la tenue du dialogue, disent-elles, elles ont décidé de faire machine arrière. Même son de cloche sur l'archipel tanzanien semi-autonome de Zanzibar, le chef de l'opposition a appelé au calme après avoir menacé en fin de semaine dernière de déclencher des manifestations si la commission électorale locale ne revenait pas sur sa décision d'annuler les récentes élections. En Guinée, les Nations Unies appellent à l'unité et au dialogue en vue de préserver la stabilité dans le pays et garantir de bonnes élections locales l'année prochaine. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a exhorté aujourd'hui à Dakar le président réélu à former un gouvernement de large consensus. En Irak, le Parlement a adopté une mesure limitant les pouvoirs du premier ministre dans la mise en place de réformes au sein de l'administration. Il devra désormais obtenir au préalable l'aval des législateurs. La décision prise ce lundi ne vise pas directement l'actuel chef du gouvernement Haider Al-Abadi, précise-t-on au Parlement. L'objectif, soutiennent les députés, c'est la séparation des pouvoirs. Jean-Roger Billon à ce micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous en rediffusion.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis. Timothée Donangmaï en votre compagnie dans cette édition consacrée au progrès du football soccer ici aux États-Unis, ainsi qu'au rôle des États-Unis dans l'enquête sur les allégations de corruption au sein de la FIFA. Comme d'habitude, vos interventions en direct dans cette émission en appelant au 001, le code pour les États-Unis, 202-619-3140-001. 202-619-3140, notre invité ce soir, un habitué de cette émission, Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Sports Education, une ONG basée à Gettysburg dans l'État du Maryland et qui se charge de trouver des bourses sportives à des jeunes Africains. Bonsoir Eugène.
Bonsoir Timothée.
Alors Eugène, l'équipe féminine de football des États-Unis, championne du monde au récent mondial du Canada contre les Japonaises, a reçu cette semaine un accueil enthousiaste du président Barack Obama. À la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a mis un point d'honneur à parler nommément de chacune des joueuses et membres du staff technique, célébrant la prouesse de cette Team USA qui a rapporté le trophée ici aux États-Unis.
Oui, oui, tout à fait. Ça faisait 16 ans que l'équipe américaine n'avait pas pu remporter la Coupe du Monde, Timothée. Et le président américain leur avait demandé de venir lui rendre visite d'ailleurs à la Maison-Blanche. Et comme on le sait aux États-Unis, le chef de l'État, donc le président des États-Unis, chaque année, rencontre tous les champions de NFL, de NCAA, qui est la Ligue des collèges, que ce soit basketball, football, de la MLB, qui est le baseball, et MLS, qui est le soccer. Et donc, ce n'est pas une surprise. Et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le sport féminin, les femmes, jouent un rôle qui est très important. Le président est père de deux enfants, ce sont deux filles. Et de facto, il fait partie des gens qui, d'une certaine manière, favorisent, du moins, aident les femmes à atteindre le niveau qu'elles peuvent atteindre.
Alors, Eugène, vous l'avez souligné, et c'est une tradition ici aux États-Unis pour le chef de l'exécutif de recevoir les champions et les équipes championnes. Mais une parenthèse pour parler tout particulièrement du président Obama, qui est un grand fan du sport, un mordu du basketball. D'ailleurs, récemment, il a assisté à un match de Chicago, des Bulls contre Cleveland. Et à la fin, il a même fourni une analyse très détaillée des prestations de Chicago et de ce que ce club pourrait faire pour améliorer sa prestation.
Il ne faut pas qu'on oublie que le président des États-Unis lui-même est basketteur, puisqu'il joue au basketball au lycée et malheureusement en collège, il ne l'a pas fait. N'oublions pas non plus qu'il est de Chicago. Le match se joue à Chicago. C'est un grand fan de Michael Jordan et qui suit ce sport-là et qu'il a une connaissance et il comprend l'importance du sport dans le développement socio-économique d'une nation. Et je pense que c'est là-dessus qu'il a essayé de donner les meilleures explications.
Et pour clore ce chapitre sur le président Obama, chaque année, les journalistes sportifs des États-Unis attendent impatiemment les combinaisons que le président fera par rapport au championnat universitaire de basketball.
Oui, c'est vrai que chaque tournoi, ce qu'ils appellent le March Madness, le tournoi final pour atteindre le Final Four en basketball, le président donne ses choix. Et de quelles équipes ils pensent qui arriveront dans le dernier carré et qui gagneront le titre. Donc ça devient un exercice depuis qu'il est rentré à la Maison Blanche en 2009, en janvier 2009, jusqu'à ce jour, il s'y prête chaque année. Et d'ailleurs, il intervient dans les sports comme le football, par exemple, changer la modification du championnat, comment ça se fait. Donc je pense que c'est un président qui aime le sport.
Et c'est tout cela suscite bien entendu beaucoup de buzz ici aux États-Unis. Vous êtes sur l'Amérique et vous consacrez au progrès du football ici aux États-Unis. Vos appels en direct au 001-202-619-3140. Alors Eugène, pour revenir au football soccer ici aux États-Unis, et c'est le football féminin qui a apporté le plus de satisfaction aux Américains avec les sacres aux mondiaux de 91, 99 et cette année 2015 au Canada. Et puis, il y a aussi 4 titres olympiques pour le football féminin des États-Unis.
Oui, justement, il faut qu'on sache d'abord, premièrement, aux États-Unis, le sport féminin est très développé. Vous savez que selon la mentalité, les femmes ne laissent pas aux hommes la place. Elles veulent prouver qu'elles aussi elles peuvent faire tout ce que les hommes font. Et donc, à ce niveau-là, les États-Unis d'Amérique ont investi non seulement en général dans tous les sports, et le soccer chez les femmes est très, très, très développé. Comme Timothée, tu as pu le faire dire, tous ces titres-là. Ce qui bloque au niveau des hommes, depuis 1976, où ils avaient fait venir Pelé pour jouer au Cosmos et d'autres joueurs.
Franz Beckenbauer.
Voilà. Le problème aux États-Unis chez les hommes n'est pas le même parce que dans le monde, le soccer est très développé, donc le football chez nous est très développé. Mais le fait qu'aux États-Unis, le sport était un business et que le sport a besoin des publicités commerciales pour pouvoir faire avancer le sport. Et ce qui est difficile de faire dans le soccer, parce qu'on ne peut pas arrêter le match pour passer des publicités. Ce qui explique pourquoi les États-Unis n'arrivent pas à attirer des joueurs de l'étranger pour venir renforcer au plus haut niveau le soccer, c'est le développement du soccer, puisqu'ils ne vont pas gagner autant d'argent qu'ils le feront en Espagne, en Italie et ailleurs.
Cela dit, beaucoup de joueurs étrangers évoluent ici aux États-Unis, notamment d'Amérique latine, d'Europe, d'Angleterre. On parle même de près de 45% des effectifs de la Major League Soccer qui seraient d'origine étrangère.
Oui, mais malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs des joueurs. Donc, c'est un marché, parce que le marché américain reste quand même un très grand marché. Vous pouvez constater qu'il y a des joueurs de la trempe de Drogba, des joueurs de la trempe de Villa, par exemple, ou de Lampard, mais généralement ces joueurs viennent en fin de carrière. Ils ne viennent pas au plus haut niveau de leur savoir-faire dans le sport. Et